à nos chers auditeurs de Radio JM, Shalom, Roni Akrish depuis Hebron. Parmi les exemples historiques les plus remarquables, on citera bien sûr le bien connu roi David qui était un modèle d'humilité tout en demeurant sans cesse ferme quant à la destinée de la nation d'Israël. Nos sages expliquent que lorsque David partait en guerre, il défendait résolument la terre et le peuple d'Israël. Mais lorsqu'il rentrait dans son palais, disent nos sages, il étudiait les textes sacrés et redevenait l'homme le plus doux et le plus humble. David avait pour habitude de prendre conseil auprès de son maître et il lui demandait régulièrement s'il avait bien rendu la justice et s'il avait correctement résolu les multiples litiges qu'on lui soumettait. Ainsi, le traité de Brachot dans le Talmud nous rapporte-t-il. Mais comment alors nous assurer que le roi puisse justement atteindre ce degré d'humilité? Le fait même de diriger une nation ne porte-t-il pas presque naturellement un homme à l'orgueil? On le répète souvent à notre époque, le pouvoir rend pervers et le pouvoir absolu rend absolument pervers. La réponse à cette question se trouve dans un autre verset. Et lorsqu'il siégera sur son trône royal, il écrira à son usage dans un livre une copie de cette loi en s'inspirant des Lévites. Elle sera près de lui et il la lira tous les jours de sa vie afin qu'il apprenne à craindre le Seigneur son Dieu, à observer les paroles de cette Torah, à pratiquer ses préceptes afin que son cœur ne s'élève guère au-dessus de ses frères. On le sait, chaque homme du peuple d'Israël a le devoir d'écrire un Sefer Torah afin qu'il ne soit pas contraint de l'emprunter chez son prochain ou à la synagogue, ce qui, pour des raisons purement techniques, réduirait les possibilités et l'ampleur de son étude. Or, certains décisionnaires ultérieurs, comme le Rosh Rabbeinu Asher, ont interprété pour notre époque ce commandement comme la possibilité d'acheter des livres écrits par d'autres, directive valant non seulement pour les ouvrages de la loi écrite, mais également pour ceux de la loi orale, qui est elle-même objet et obligation d'étude. Mais si tout homme d'Israël a le devoir de posséder un livre de la Torah, le roi se doit, quant à lui, d'en avoir deux. Maïmonide, le Rambam, explique toujours dans ses lois sur la royauté que le roi pouvait en effet recevoir en héritage l'un de ces deux livres de la part de ses ancêtres, mais qu'il devait impérativement écrire le second. Chaque livre avait son usage spécifique. L'un servait à l'étude et le second restait enveloppé dans un étui à la disposition permanente du souverain lorsqu'il rendait la justice, consultait la nation et bien sûr lorsqu'il partait en guerre à la tête de ses troupes. Il le consultait sans cesse afin de savoir quelle était la bonne voie à suivre comme il est écrit et il sera avec lui et il le lira tous les jours de sa vie. Il s'agissait en fait, pour des raisons pratiques, d'un rouleau de la Torah miniaturisé et enfermé dans un étui de cuir qui restait attaché sur son avant-bras. Maïmonide précise que le roi doit utiliser son temps à se consacrer à l'étude, soit aux affaires d'État. Puisqu'il porte une responsabilité si importante, il ne peut se permettre de dilapider son temps dans des futilités. C'est donc l'étude de la Torah qui nous assure que le souverain restera fidèle à la mission qui lui a été confiée, évidemment, qu'en cas de défaillance, le haut tribunal rabbinique, le Sanhédrin, les prophètes, qui sont les garde-fous politiques du pays, et parfois même la nation tout entière, doivent intervenir. Cette précision nous conduit inévitablement à un problème d'actualité. Dans quelle mesure le gouvernement de l'État d'Israël répond-il de nos jours à cette définition de la royauté? Précisons d'emblée que le Rav Kook considère que lorsqu'il n'y a pas de roi, c'est le peuple qui hérite du statut de roi. La collectivité peut aussi transmettre les prérogatives du roi à celui qui lui paraît le plus digne pour diriger la nation. Vous entendez bien. Il s'avère donc que le gouvernement israélien actuel est dans une certaine mesure une projection de la royauté d'Israël. Il assume en effet les mêmes responsabilités que celles du roi, mais il doit également remplir les mêmes devoirs que lui. Évidemment, ce n'est pas un gouvernement parfait, en particulier sur le plan de la fidélité à la Torah et pour ce qui est de la représentativité de la nation dans son ensemble. Mais il incarne cependant d'une certaine manière la première étape vers un retour de la royauté à l'État d'Israël, qui doit être perçu comme royaume d'Israël en chemin. Il est probable d'ailleurs qu'il nous faudra encore nous montrer patients avant de voir sous nos yeux se former le royaume d'Israël ou l'État d'Israël tant aspiré, conforme à l'image que la Torah nous présente ici. Et à la vérité, notre histoire nous a bien montré qu'au début de l'existence de la nation hébraïque sur sa terre, nous ne possédions pas encore de royaume. Le peuple d'Israël préférait en effet vivre de manière assez tribale, chaque tribu d'ailleurs jouissant d'une certaine autonomie et possédant sa propre armée, sa propre police. On se souvient d'ailleurs que cette conception morcelée de la collectivité d'Israël avait conduit à un véritable désastre, puisque chaque sous-ensemble avait pris l'habitude de faire ce que bon lui semblait, dans le livre des juges. Le pays était en plein marasme dans tous les domaines, religieux, économique, moral, sécuritaire, militaire, et j'en passe, à tel point que parfois, il tombait même entre des mains ennemies. Nos sages de la Mishnah ont polémiqué sur un point important. La nomination d'un roi est-elle obligatoire ou facultative? Dans son traité sur les lois de la royauté, le même Maïmonide statue et affirme que la désignation d'un roi est pour Israël obligatoire. Cependant, la nomination du roi dépend de la volonté du peuple, ainsi que l'indique le verset « Et tu diras, je placerai un roi sur moi ». C'est donc le peuple qui doit exiger la désignation du roi. S'agit-il d'une condition de principe sine qua non, nécessitant le complet accord de la nation, ou bien est-ce là une dimension de facto? Sans la confiance du peuple, le roi ne pourra pas accomplir la tâche de façon effective. Des sommités telles que le Natsiv Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin et Rabbi Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, sont divisés à ce sujet. Il nous reste pourtant à espérer qu'après les débuts encourageants dont nous avons été les témoins depuis bientôt 60 ans et quelques plus, en Israël, dans l'Israël d'aujourd'hui, nous continuerons à frayer notre voie jusqu'à l'instauration d'un royaume authentique et même jusqu'à l'avènement du roi par excellence que nous avons l'habitude de nommer comme le Messie. Passez un bon Shabbat. Shabbat Shalom, René Akris depuis Revon.